n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Comme tous les jours, vous nous parlez de la philosophie d'un point de vue de l'actualité. Alors, que s'est-il passé? Quelle actualité a retenu votre attention?
Bon, alors, c'est pas vraiment une actualité, je reconnais. C'est un ouvrage collectif qui est paru au début de l'été, qui s'appelle Shakespeare au risque de la philosophie. Et c'est un ouvrage, en plus, qui est le résultat d'un colloque qui a eu lieu en 2014. Donc, pas vraiment d'actualité, mais de toute façon, les liens entre philosophie et Shakespeare sont loin d'être actuels. Au contraire, de Hegel à Derrida, de la question de la folie à celle du pouvoir, les philosophes se sont sans cesse nourris de l'œuvre du dramaturge et inversement. Mais alors comment? Un premier exemple avec la pièce Jules César.
Alors, cher Brutus, préparez-vous à m'écouter. Et puisque vous avouez qu'il vous est impossible de vous voir vous-même autrement que par image réfléchie, je suis le miroir qui modestement va vous découvrir à vous-même cette part de vous-même que vous avez jusqu'à présent méconnue. Et n'ayez pas de méfiance à mon égard, noble Brutus. Si j'étais un farceur vulgaire ou s'il était dans mon habitude de prostituer les serments d'une affection banale au premier flagorneur venu, si vous me teniez pour quelqu'un qui se jette au cou des gens pour leur faire des mamours et les diffamer ensuite, ou qui dans un banquet fait profession d'aimer toute la table, alors vous pourriez me tenir pour dangereux.
Voici une première manière assez classique d'évoquer les liens de toujours entre Shakespeare et la philosophie, c'est d'y détecter au sein des œuvres de Shakespeare la présence de concepts. Alors par exemple ici, dans cette réplique de Cassius à Brutus, c'est la problématique de la connaissance de soi et de la reconnaissance par l'autre qui sont en jeu. Allant de l'Antiquité jusqu'au XXe siècle, de la piété chrétienne à la question du tragique, c'est de cette manière que procède cet ouvrage, donc Shakespeare au risque de la philosophie, mais il procède aussi d'une autre manière, en voyant comment Shakespeare, à son tour, se risque à ces concepts, mais aussi comment il les manipule et comment il leur fait prendre des risques.
Tous nos matins n'auront éclairé pour nous, imbéciles, qu'un seul chemin vers la poussière et vers la mort. Éteins-toi, courte flamme. La vie n'est qu'une ombre en marche. Un pauvre acteur qui fait son heure sur la scène. Il s'agite, il s'échauffe, et puis... on ne l'entend plus. C'est un récit dit par un idiot, plein de bruit et de fureur, et qui ne signifie rien.
Dans ce deuxième exemple, célèbre extrait de Macbeth, on trouve l'idée chère à Shakespeare du monde comme théâtre et de la vie vécue comme un rôle. Alors c'est une idée loin d'être neuve, on la trouve déjà chez un stoïcien comme Épictète, mais chez Shakespeare, elle prend une tournure beaucoup plus désabusée. Chez les stoïciens, par exemple, jouer son rôle revient à accomplir sa destinée, mais dans un monde parfaitement ordonné et harmonieux. Chez Shakespeare, en revanche, jouer son rôle, c'est au contraire être conscient du chaos et de l'absurdité de ce monde. Rien n'a de sens, tout n'est qu'apparence et illusion, au point que l'on est à se demander, et cet ouvrage le soulève, s'agit-il vraiment alors de philosophie chez Shakespeare, si tout n'est qu'apparence et rien n'a de sens ou de consistance?
Être ou ne pas être, telle est la question. Y a-t-il pour l'âme plus de noblesse à endurer les coups et les revers d'une injurieuse fortune, ou à s'armer contre elle pour mettre frein à une marée de douleur? Mourir. Dormir, c'est tout. Calmer enfin, dit-on, dans le sommeil, ces affreux battements du cœur. Quelle conclusion des maux héréditaires serait plus dévotement souhaitée? Mourir. Dormir. Dormir.
Incontournable passage de Shakespeare, le plus philosophique apparemment de son œuvre. Il faut lire l'article passionnant qui lui est consacré dans cet ouvrage, car la question s'y pose, ce passage est-il si philosophique qu'on le croit? N'est-il pas en fait plutôt une sorte de caricature de métaphysique? Mieux que de détecter la présence de concepts chez Shakespeare, que de le voir à tout prix comme un auteur philosophique, quelle serait donc la philosophie selon Shakespeare? Quel rôle lui fait-il donc jouer? Comment la fait-il parler et agir? Telle serait donc la question, celle posée ici et celle que chacun pourrait d'ailleurs se poser. Comment voit-on la philosophie et quelle place veut-on lui laisser jouer?
Autant de questions auxquelles j'ai vraiment envie d'avoir des réponses, donc je lirai ce livre, Shakespeare au risque de la philosophie.
Voilà, et c'est un ouvrage collectif parlé. Sous la direction de Pascal Drouet et Philippe Grosot, et c'est paru aux éditions Hermann.
Peut-être là aussi une idée de semaine de...
Moi je suis d'accord pour entendre des beaux passages, comme on vient les entendre.
On va y penser, merci Géraldine.